Vous écoutez
RMC. RMC, la matinale week-end.
Les infos, Solène Gardré, bonjour Solène.
Bonjour Mathieu, bonjour Peggy, bonjour à tous. Évacuation dans le calme hier soir de Sciences Po à Paris. Des étudiants occupaient l'université pour demander à leur direction de prendre position sur Gaza. Dans ce journal, nous nous rendrons à Athènes où la flamme olympique s'apprête à partir ce matin en direction de Marseille. Et puis c'est la fête des libraires indépendants pour 650 librairies dans toute la France. On vous emmène dans une librairie de Haute-Garonne.
À Paris, les centaines d'étudiants qui occupaient Sciences Po ont quitté l'université hier soir.
Ils étaient restés tout l'après-midi dans l'université pour réclamer une prise de position de leur direction sur les actions d'Israël à Gaza. Une fin de journée qui aurait pu être agitée après la venue dans l'après-midi de manifestants pro-Israël. Les étudiants, eux, demandaient notamment que Sciences Po arrête les collaborations avec les universités israéliennes. Hier soir, ils sont finalement partis dans le calme après qu'un accord ait été trouvé, Nicolas Tréneau.
Oui, la direction s'engage d'ici jeudi à organiser le débat interne voulu par le comité palestine des étudiants, sorte d'assemblée générale ouverte à toutes les communautés de Sciences Po, le comité qui demande à la direction de se positionner clairement pour un cessez-le-feu à Gaza. Les contours de ce rendez-vous seront définis lundi et le communiqué précise que toutes les questions pourront être posées, notamment celles sur les partenariats de l'école. Les étudiants mobilisés veulent que cessent les partenariats noués avec des universités ou des organisations complices de violations du droit international. Enfin, la direction suspend les procédures disciplinaires contre des manifestants, mais uniquement celles lancées depuis 10 jours. Les procédures engagées donc avant le 17 avril ne sont pas abandonnées pour le moment, notamment celles concernant l'interdiction d'accès à un amphithéâtre d'une étudiante juive lors d'une manifestation pour la Palestine libre le 12 mars.
Gaza qui va recevoir une nouvelle aide humanitaire de l'Union européenne. 68 millions d'euros ont été annoncés hier par la Commission. Ce qui...
RMC jusqu'à 9h30, la matinale week-end.
Mathieu Rouault.
Bon réveil à l'écoute d'RMC, les 8h10.
Le témoin RMC.
Notre témoin ce matin, Alain Bentolila, professeur de linguistique à l'Université Paris-Descartes, auteur de controverses sur la langue française chez ESF Sciences Humaines.
Bonjour à vous.
Bonjour. Nous le disions
ce samedi, la fête des librairies indépendantes, sauf que les Français lisent de moins en moins. On a plusieurs études qui le prouvent, assez récentes. Étude de l'INSEE publiée en début de semaine qui montre que 10% des adultes ont des difficultés dans les fondamentaux de l'écrit et de la lecture, à déchiffrer les mots, écrire, comprendre un texte simple. Cette autre étude du Centre National du Livre qui constate un décrochage préoccupant de la lecture chez les jeunes. Je donnais les chiffres tout à l'heure, 19 minutes par jour contre plus de 3 heures devant un écran. Est-ce que c'est peine perdue, Alain Bentolila, pour nos jeunes ?
Ah non, ça n'est pas peine perdue, certainement pas. L'enjeu est trop important pour qu'on puisse pour qu'on se permette de baisser les bras. Rappelez-vous là, ce que disait Ray Bradbury dans Feinstein 451. Il disait cette phrase, il n'est pas nécessaire de brûler les livres pour tuer une culture. Il suffit que nos enfants soient incapables de les lire. Et cette phrase doit résonner aujourd'hui et on doit se dire d'abord à quoi ça rime, pourquoi ? Pourquoi est-ce que, année après année, les enquêtes PISA européennes nous classent si mal derrière tous les pays européens et notamment dans ce qui est la compréhension de l'écrit.
Et tout ça est lié, bien sûr, Alain Bentolila, mais comment on y remédie ? Qu'est-ce qu'on fait pour que, à la maison, nos enfants aient plus envie d'aller vers les bouquins que de regarder la tablette, la télé ou le smartphone ?
Il y a quand même peut-être juste une toute petite chose avant de passer au remède. Qu'est-ce qui est en cause aujourd'hui ? Il y a deux choses principalement qui sont en cause. La première, c'est la façon dont on apprend à lire aux élèves français. Et il y a énormément de classes en France où il n'y a pas de méthode de lecture et où l'apprentissage est incohérent et chaotique. La deuxième, c'est qu'on choisit des méthodes de lecture qui ne sont pas toujours les bonnes et notamment on ne prend pas assez en compte les nouvelles méthodes qui sont des méthodes intégrales.
Donc ça se joue d'abord et avant tout à l'école.
Ça se joue à l'école. Et la deuxième chose à l'école, c'est qu'on n'apprend pas aux enfants à comprendre des énoncés de mathématiques, des textes d'histoire, des textes scientifiques, etc.
La lecture, voilà. Ça n'est pas seulement un livre, un roman, Alain Bentolila. Non, c'est tous les supports, pas. C'est absolument tout ce qui nous passe par la main. Dès qu'il y a des mots les uns à la suite des autres, on les lit.
Voilà. Et c'est ce qui fait que l'enfant arrive au collège, il sait peut-être lire une petite histoire, mais il est incapable de résoudre un problème de maths, d'apprendre un résumé d'histoire, de lire un texte scientifique. Et le collège achève les enfants fragiles, c'est-à-dire ceux à qui on n'a pas appris à comprendre dans toutes les disciplines. Donc ça si vous voulez, c'est la réponse un peu au... Pourquoi on en est arrivé là ?
Je me permets, Alain Bentolila, de lire le message de Stéphanie, qui vous écoute et qui nous écrit sur l'appli RMC ce matin. Il faudrait qu'à l'école, il y ait tous les jours 10 minutes, que l'école demande aux enfants en devoir à la maison, 10 minutes de lecture tous les soirs. Voilà ce qui serait un bon devoir, selon Stéphanie. Et Alain Bentolila...
Ça ne serait pas un devoir, d'ailleurs, hein, parce que si cela se fait... avec les parents épaule contre épaule, c'est aussi un plaisir et une façon de se retrouver.
Ah, alors justement, écoutez le témoignage de Jean-Pierre qui cette fois-ci nous appelle au 32-16. Bonjour Jean-Pierre.
Bonjour Mathieu, bonjour à toute votre équipe.
Bonjour Jean-Pierre.
Jean-Pierre, vous êtes dans les Yvelines.
Tout à fait.
Et votre témoignage est intéressant parce que vous dites, moi j'étais pas du tout bouquin, pas du tout lecture. Oh. Et depuis que ma fille sait lire, je m'y suis mis moi avec elle. Expliquez-nous.
Jusqu'à mes 40 ans, j'avais pas ouvert un livre.
C'est
pas
zéro.
Quelque chose qui m'attirait. J'avais lu zéro livre. J'ai commencé à travailler à 17 ans, j'étais en apprentissage, après j'ai fait ma carrière en boulangerie, après j'ai dérivé et à la naissance de ma fille à 40 ans, elle a commencé à 2 ans, donc lui lire des petites histoires. Donc on commence par là. Et maintenant qu'elle sait lire, on s'est mis à lire Harry Potter le 1, le 2. Là, on a entamé le 3 il y a quelques temps. On lit ensemble le soir, donc un chapitre chacun. Et moi, ça m'oblige à lire. Et puis elle adore ça parce qu'elle lit avec son père et elle lit avec ses parents. Et je pense que l'exemple vient des parents.
Un chapitre chacun.
Sur les smartphones et les ordinateurs.
À haute voix, Jean-Pierre. À haute voix.
Oui, on lit à voix. Je lis pour elle lit pour moi.
Génial. Jean-Pierre, c'est formidable. Alain Bentolila, ça veut dire que c'est dans les deux sens. Autant les parents doivent initier les enfants, mais autant les enfants peuvent aussi donner envie aux parents.
Donne envie aux parents parce que la responsabilité parentale fait découvrir que l'absence de livres, c'est l'absence de culture, c'est aussi le fait que ne lisant pas suffisamment, il sera incapable de critiquer les textes, de les interpréter, et donc sera un jeune crédule. Et Dieu sait aujourd'hui que la crédulité sur les réseaux sociaux devant des textes qui sont sans arrêt mis devant leurs yeux est quelque chose de fatal.
C'est une question, Alain Bentolila. Est-ce qu'il faut rejeter absolument tout ce qu'on peut faire et lire sur les smartphones, sur les réseaux sociaux? Ou est-ce qu'au contraire, il n'y a pas de mauvaise lecture? Est-ce que passer du temps sur un réseau social, lire des mots, ça peut aussi être considéré comme une saine lecture?
Non, ça n'a rien à voir. Honnêtement, ça n'a rien à voir. Et je pense vraiment, avec quelqu'un que j'aime beaucoup, qui est Michel de Murger, qu'il faut faire très attention.
Qui a écrit La fabrique du crétin digital.
Voilà, crétin digital. Puis récemment... un livre sur faites-les lire. Et faites-les lire, il a raison. Faites-les lire, mais pas lire sur leur smartphone, parce que la vraie lecture, c'est la lecture longue. C'est la lecture qui a un début, un milieu, une fin. C'est la lecture qu'on peut résumer, la lecture qu'on garde en tête. C'est ça, et c'est pourquoi il ne faut pas dire tout se vaut. Non, tout ne se vaut pas. Et les parents doivent... Alors, quels seraient les principes que alors, bravo à votre auditeur.
À Jean-Pierre.
Il a tout compris, c'est formidable. Vraiment, ces moments passés avec les enfants sont formidables. Mais quel précepte est-ce que je donnerais? J'en donnerais 5.
Allez-y, on vous écoute, on en a besoin.
D'abord, je dirais, dès le plus jeune âge, parler. Parler aux enfants en les regardant dans les yeux. Mettez votre smartphone de côté et une heure par jour.
Interagir, parler,
les yeux dans les yeux.
C'est deuxième précepte.
Deuxième précepte, leur lire des histoires. Alors on rejoint votre auditeur. Lire des histoires très tôt aux enfants, d'abord leur lire des histoires, avant qu'ils ne sachent lire, et pas pour aller dormir en pleine conscience dans la journée, deux fois par semaine, se garder une petite demi-heure à soi et leur lire une histoire, puis peut-être d'autres textes que des histoires, des textes plus informatifs. Troisièmement, je dirais les invités, dès qu'ils savent lire et qu'ils commencent à écrire, les invités à des lectures, c'est exactement ce que disait votre auditeur, des lectures de relais. C'est-à-dire, je lis un peu, tu lis un peu, je lis un peu, tu lis un peu. On se lit, on s'offre de la lecture, ouais. Et on en discute, et on en parle.
Okay.
Et on
en parle. Quatrième ?
Quatrièmement, essayez, si vous voulez, de vaincre cette peur du livre un peu impressionnant, essayez de le tirer progressivement vers une lecture de plus en plus longue. Là, je dirais qu'il y a aujourd'hui des tentatives qui sont des tentatives de feuilletonnage de livres longs. Je pense notamment à ce qu'a fait Serge Boimard sur un livre que vous connaissez qui est Rémi sans famille.
Oui.
Il a divisé tout ce roman en 54 épisodes. Et le fait de ne pas avoir à lire long, mais d'avoir à lire quelque chose qui se poursuit est formidable.
Comme une série de lectures.
Je ne saurais trop recommander un outil, une application qui fonctionne très bien aujourd'hui, qui est la machine à lire, où on propose aux enfants une alternance entre l'écoute d'une histoire ou de quelque chose de oui. plus informatif et la lecture. Et c'est un logiciel tout à fait fin et qui permet effectivement, il est gratuit, et il permet effectivement de prévoir l'épuisement d'un petit lecteur, de lui donner à ce moment-là accès à l'écoute de l'histoire au moment même où il s'épuise.
Se reposer vers le roman et vers les mots à lire. Merci beaucoup Alain Bentolila pour ces cinq conseils, ces simples préceptes.
Une dernière chose peut-être, allez-y. Attention au vocabulaire des enfants. Si les enfants ne lisent pas, c'est parce que la pénurie de vocabulaire est absolument dramatique aujourd'hui, dramatique. Hein. Il y a certains enfants qui entrent au CP avec trop peu de mots pour apprendre à lire.
Merci encore. Professeur de linguistique, Université Paris-Descartes, auteur de Controverses sur la langue française, ESF Sciences Humaines, voilà pour l'édition. Un grand merci aussi à Jean-Pierre pour son témoignage. Salué par Alain Bentolila ce matin, lire à voix haute avec son enfant, quel plaisir. 8h21, vous êtes sur RMC.
Monstre 58 mètres de long, 22 voiles et un grand mât de 34 mètres de haut. Il y a un mois, il était amarré au port d'Antibes, des chanceux ont même pu le visiter. Écoutez-les s'émerveiller au micro de Maxime Tilliette.
L'esthétique est assez surprenante, c'est très beau, c'est très, très, très bien entretenu.
Le bateau est vraiment extraordinaire, c'est gigantesque.
Ce qu'il faut savoir avec ce bateau, c'est qu'elle a eu à peu près 14 vies différentes. C'est un peu le Michel Drucker des voiliers, quoi, finalement. Il est construit il y a 128 ans à Nantes. Au début, sachez que sa fonction principale, c'est de transporter des fèves de cacao pour la chocolaterie française Meunier depuis le port de Belém, dans le nord du Brésil, d'où le nom. Voilà, première.
Incroyable.
Quelques années plus tard, il passe pas loin de disparaître. Déjà, il échappe par miracle à l'éruption de la montagne Pelée en Martinique. En 1914, un de nos lointains cousins, le duc de Westminster, qu'est-ce qu'il se dit ? Le cacao, c'est chiant, c'est quand même un super beau bateau. Vous savez quoi ? On va en faire un yacht de luxe. Voilà, mais tu as toujours cet odeur de cacao un peu tenace qui reste dans les cales, alors qu'est-ce qu'il fait ? Il change de main, encore, il passe à la famille Guinness, la bière, exactement.
Et alors après l'Angleterre, l'Italie, il est racheté par un Italien qu'il transforme en navire-école pour la marine italienne.
Tout à fait, ouais. Petit crochet par l'Italie où il servira à entraîner les marins italiens pendant une vingtaine d'années. Évidemment, après tout ce temps de bons et loyaux services, il n'est pas en forme le bateau, hein. Il échoue dans les chantiers de Venise destinés à mourir ici. Eh bien non, un Français qui passait par là, le docteur Luc-Olivier Gosse, le rachète encore une fois et décide de le ramener en France pour le remettre en état. Depuis, c'est un peu devenu un symbole de la marine française. Il navigue un peu partout pour célébrer des événements. Il y en a vu du pays ce bateau, le centenaire de la Statue de la Liberté à New York, le jubilé de diamant de la Reine d'Angleterre ou, par exemple, les Jeux Olympiques de Londres en 2012, par exemple. Il est chargé d'histoire et c'est ce qui rend si fier son commandant Mathieu Combotte.
Belém, c'est un navire qui a traversé les générations. Aujourd'hui, il a bientôt 128 ans. On se doit de le préserver, de le faire continuer à naviguer. C'est vraiment notre mission et c'est ça qui me parle vraiment, de travailler sur ce navire.
Et sachez que c'est pas un hasard s'il a été choisi pour transporter la flamme olympique, ce gros bateau, puisque 1896, l'année de sa construction, pour les JO, c'est une année un peu particulière. Petit quiz, c'était sans tricher.
1896 ?
Ouais.
Bah, le début des JO modernes, non ?
Tout à fait.
Eh ben voilà.
Bonne réponse, Mathieu.
Mais qu'il est bon.
Il est très fort. Les premiers Jeux Olympiques à Athènes, c'est exactement ça. Athènes, c'est de là où il part d'ailleurs ce matin. C'est en ce moment même. Et si vous voulez l'apercevoir, il arrivera en France, à Marseille, le 8 mai prochain.
Et celui qui sera le premier à entrer dedans dans le Belém avec la flamme, c'est Tony Estanguet. Nous sommes bien d'accord. Celui qui en ressortira le premier à Marseille, c'est Laurent Manaudou. Ça a été annoncé hier soir et on en parlera avec la ministre des Sports Amélie Oudéa-Castéra qui est avec nous à 8h40 en direct sur RMC. Merci Arthur.
Avec plaisir.
En attendant, nous avons un gagnant les amis.
RMC, la matinale week-end.
Le 10 minutes chrono.
Et même une gagnante ce matin, Peggy. Nous partons dans l'Hérault. Bonjour Chloé.
Bonjour.
Bonjour à tous.
Ça va Chloé ?
Ça va, merci. Et vous ?
Bah ça va, le sourire de bon matin. Vous êtes réveillée pour le boulot, pour comme ça ?
C'est ça, et oui, je travaille le samedi matin, oui.
Et bah voilà, mais avant de partir bosser, vous avez joué avec nous, vous avez bien fait.
Et oui, parce que vous repartez avec un week-end pour deux dans le monastère de Saint-Mont, dans le Gers, inscrit aux monuments historiques. Vous allez voir, c'est un lieu absolument reposant.
Eh bien, écoutez, je ne connais pas du tout. En tout cas, merci beaucoup.
Eh bien, on est très heureux. Vous allez découvrir ça. N'hésitez pas à nous envoyer une petite carte postale. Ça nous fait toujours plaisir. Chloé, vous posez un week-end. Vous partez avec ce cadeau offert par RMC et Charme et Caractère. Et on se dit à bientôt. Merci de votre fidélité.
Eh bien, merci. Écoutez, passez une bonne journée. Merci beaucoup.
Et c'est l'heure pour vous de ne rien manquer de l'actualité.
Tout ce qu'il faut savoir, toute l'actu en 5 minutes avec vous Anaïs Castagnard, bonjour.
Bonjour Peggy, bonjour Mathieu, bonjour à tous. À la une, le départ de la flamme olympique à bord du Belém ce matin, fin du blocage à Sciences Po Paris. Et puis le roi Charles III va reprendre des activités officielles.
Et c'est donc dans une demi-heure, la flamme olympique fera son entrée sur le Belém.
Ce fameux trois mâts qui doit quitter le port du Pirée à Athènes à 10h, direction Marseille. Moment très émouvant sur lequel est revenu ce matin Tony Estanguet, président du comité des Jeux Olympiques Paris 2024, en direct d'Athènes. Écoutez dans quel état d'esprit il est avant le départ de la flamme vers la France.
C'est un moment assez magique, ça fait tellement longtemps qu'on attend ça. On a aujourd'hui effectivement une nouvelle étape très importante. Cette flamme, elle prend le chemin de la France. Et à partir du 8 mai, c'est le début de notre aventure, de nos Jeux. On se sent prêt, on a hâte.
À bord du voilier, 16 jeunes éclaireurs qui auront une mission capitale, protéger la flamme pendant les 12 jours de traversée. Parmi eux, François, habitant de Cherbourg, de 31 ans.
Donc mon rôle sur le BM, ça va être avec mes collègues de protéger la flamme olympique pour que jamais ne s'éteigne le feu originel. Donc on va devoir se relayer, faire du quart, même que ce soit de nuit, manger avec, partout où nous allons, la flamme va.
Et le 8 mai prochain à Marseille, c'est le nageur Florent Manaudou qui sera le premier relayeur de la flamme olympique sur le sol français. Alors qu'à Marseille, certains pensaient à un autre grand sportif, la légende du foot Zinedine Zidane, pour être le premier relayeur. Il sera peut-être le dernier, tiens, à Paris. On posera la question à la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra. Elle est notre invitée dans quelques minutes sur RMC. Puisqu'on parle des Jeux, les athlètes palestiniens devraient être 6 à 8 aux Jeux Olympiques de Paris. Si aucun Palestinien ne se qualifie, le CIO les invitera. Voilà ce que dit Thomas Barr, le président du CIO, en plein conflit israélo-palestinien.
Conflit quittant le climat à Sciences Po Paris, la prestigieuse école bloquée hier par des étudiants mobilisés pour la cause palestinienne.
Finalement, un accord a été trouvé avec la direction. Elle s'engage à organiser un débat interne d'ici jeudi. Toutes les questions pourront être posées, notamment celles sur les partenariats de l'école. Les étudiants mobilisés veulent que cessent les partenariats noués avec des universités et des organisations complice de violation du droit international. Écoutez ce qu'en dit Michel Deneken, le président de l'Université de Strasbourg. Il était ce matin notre invité. Que doit faire Sciences Po selon lui ?
Je ne me permettrai pas de juger la direction de Sciences Po, qui est un établissement très particulier en France. Que cela plaise ou non, Israël est une démocratie. Mais boycotter Israël et surtout refuser des relations académiques avec des universités ou des entreprises israéliennes, c'est l'inverse d'une université. Nous devons rester ouverts, justement, nous devons rester ouverts.
RMC 8h33, trois mois après l'explosion de colère dans le monde agricole, le gouvernement annonce ce matin de nouvelles mesures pour les exploitants.
Pour faire face aux besoins de trésorerie, aux différents phénomènes climatiques, pour accompagner ces annonces, eh bien, le Premier ministre Gabriel Attal est sur le terrain ce matin, Cyprien Pézeril.
D'un côté, il y a les images. Gabriel Attal, ce matin, au milieu du monde rural, le Premier ministre, qui entend cultiver la proximité, le contact avec les Français, et qui choisit donc de se rendre à la foire au Bulot d'une petite commune de la Manche, avant de se déplacer ensuite sur une exploitation maraîchère. De l'autre côté, il y a les annonces. Le chef du gouvernement compte tourner la page de la crise agricole qui l'a accompagné dès son arrivée à Matignon, et ce alors que les syndicats ont toujours dit que le mouvement de colère n'était que sur pause, qu'il pouvait donc reprendre. attendre. Alors ce matin, dans un communiqué, l'exécutif présente ce qu'il appelle des avancées sur la trésorerie, notamment 100 millions d'euros d'aide au financement, mais aussi un plan d'accompagnement spécifique à l'agriculture méditerranéenne, particulièrement touchée par les aléas climatiques, de 50 millions d'euros.
C'est une tradition vieille de 25 ans. Un immense rassemblement de gens du voyage, tziganes évangéliques, se tient à partir d'aujourd'hui et jusqu'au 5 mai à Nevoy dans le Loiret.
27 000 pèlerins attendus sur place. Parmi eux, certains sont des habitués comme Basia. Elle vient tous les ans depuis sa naissance. C'est une affaire de famille.
J'ai grandi vraiment là-dedans. Mon grand-père, c'est lui le premier fondateur de l'école biblique. Ça fait partie de nous et on veut vraiment pas perdre ça pour nos enfants parce que c'est vraiment, un héritage de nos vieux. J'ai eu mes plus grandes bénédictions, on va dire, ici. Je me suis baptisée, j'ai en dessous le grand chapiteau, là. J'avais 16 ans. Mon fils, il a 14 ans. Lui, il préfère louper tout, mais pas la convention. C'est vraiment important pour lui. Et même mon fils de 6 ans, il est vraiment content à revenir. Il s'amuse avec ses petits copains en dessous le chapiteau. C'est familial et c'est une bénédiction.
Allez, direction le Royaume-Uni où le roi Charles III, qui souffre d'un cancer, va reprendre des activités publiques dès la semaine prochaine. Annonce du palais de Buckingham hier. Ses médecins jugent les progrès sur son état de santé très encourageants. Ils sont optimistes sur sa guérison. Pas question pour autant de faire n'importe quoi. Ses apparitions seront décidées au cas par cas et suivant les recommandations, donc en fonction de son état de santé.
Le football, la Ligue 1 et peut-être cette soirée de sacre pour le PSG.
Les Parisiens ont besoin d'une victoire contre le Havre pour devenir champion de France pour la 12e fois. Match qui permet aussi de préparer le déplacement à Dortmund en demi-finale de Ligue des Champions mercredi prochain. PSG-Le Havre à suivre 21h ce soir. Et puis je voulais aussi vous parler de rugby féminin. Vous dire que le rugby féminin va faire le plein cet après-midi. Plus de 27 000 personnes attendues dans le stade Chaban-Delmas à Bordeaux pour France-Angleterre. Le choc du tournoi Destination, l'ouvreuse du 15 de France, Lina Kerrois, s'en félicite. Écoutez.
Et ça fait plaisir de voir que les gens ils attendent le match, qu'il va y avoir du monde, qu'on va être soutenu. Et ça montre que le rugby féminin, il évolue en France et qu'il est de plus en plus regardé. Donc c'est cool.
Les Bleus vont essayer de détrôner les Anglaises, invaincues dans le tournoi depuis 5 ans. Rencontre à suivre dès 17h45 sur RMC. Et puis une musique pour terminer. Tu trouveras dans mes chansons. Est-ce que vous reconnaissez Mathieu et Peggy?
Natacha Saint-Pierre.
Bien sûr. Vous savez pourquoi je vous balance là comme ça du Natacha Saint-Pierre à 8h36? Allez Mathieu,
c'est avec les stars.
Mais bien sûr, allez, ne vous cachez pas, tout le monde sait que vous êtes fan, que
oui,
vous avez suivi.
Ça, bien sûr, tous les vendredis soirs.
Elle vient de remporter la saison 13 donc de Danse avec les stars face à Inès Reg. Vous savez que c'est pas l'amour fou entre les deux artistes. Vive Altercation au mois de janvier, ça a énormément marqué cette édition. Édition remportée donc finalement par Natacha Saint-Pierre. J'ai perdu la tête haute, dit l'humoriste.
Il le reconnaître.
Ouais.
Voilà. Comme ça, l'histoire se termine.
Oui.
On passe à autre chose, quoi.
Ou pas. Ouais. Vous savez, hein, on sait jamais.
Les soirées télé sont toujours très animées, tout comme les matinées radio. Il faut ça hein, pour vivre. Hein. Qu'est-ce qu'on ferait sinon? On s'ennuierait si qu'on n'était pas là. Hein,
mais qu'est-ce qui lui arrive?
Merci d'être avec nous. Vous êtes sur RMC, on est ensemble jusqu'à 9h30 et on va continuer de parler français, c'est promis. Il est 8h37.
À suivre dans la matinale week-end.
Le roi des légumes, le légume des rois. Je parle de l'asperge. Ce matin, c'est avec Perico Légas dans Le beurre et l'argent du beurre. Comment la cuisiner, l'apprécier, l'éplucher? A-t-elle vraiment des vertus aphrodisiaques? Pourquoi retrouve-t-on son odeur là où vous savez? Vous saurez vraiment tout sur l'asperge ce matin. Rendez-vous à 9h10.
À 8h50, le coup de main qu'on soit avec vous, Anaïs Castagna, et on va préparer notre peau à l'été.
Oui, et je vais vous donner l'alerte, ou plutôt c'est l'UFC Que Choisir qui vous donne l'alerte sur les crèmes solaires, parce que plusieurs marques affichent des affichages totalement mensongers. Je vais tout vous dire et je vais vous donner des bons conseils pour bien vous protéger.
D'abord, direction le soleil d'Athènes, où la flamme olympique va donc embarquer à bord du Belém pour rejoindre Marseille. Amélie Oudéa-Castéra, ministre des Sports et des JO, est notre invitée dans deux minutes.
RMC, 6h30, 9h30, la matinale week-end.
Mathieu Rouault.
Merci d'avoir choisi RMC pour vous réveiller en ce samedi, il est 8h40.
L'entretien RMC.
Et l'invité de l'entretien RMC ce matin, c'est Amélie Oudéa-Castéra, ministre des Sports et des Jeux Olympiques et Paralympiques.
Bonjour à vous.
Bonjour.
En direct de Grèce, là où la flamme des Jeux Olympiques de Paris 2024 vous a officiellement été remise hier soir. Cérémonie pleine d'émotions, on a entendu cette Marseillaise. Entonnée par Nana Mouskouri. Ça y est, Amélie Oudéa Castéra, les Jeux commencent maintenant, la flamme est officiellement française.
Absolument, et c'était vraiment une belle cérémonie hier soir dans ce stade panathénaïque où tout a commencé, hein, parce que les premiers Jeux de l'ère moderne en 1896 s'y étaient tenus. C'est un stade qui est chargé d'histoire, c'était une belle cérémonie. Il y avait une très belle lumière, ce stade de marbre comme ça, en forme antique, en U. Et puis, en effet, cette très belle Marseillaise, ce spectacle aussi avec des jeunes du lycée franco-hellénique. Donc, on avait toutes les générations, nos deux relayeuses qui ont été aussi formidables, Gabriela Papadakis, notre grande patineuse, et puis Béatrice S, au palmarès absolument incroyable, la nageuse paralympique. Elles étaient toutes les deux très émues. On a eu une belle cérémonie de passation et ça y est, en effet, la flamme est française. C'est parti.
De bon augure pour la cérémonie d'ouverture à Paris qui sera inoubliable, dit ce matin le président du Comité international olympique. La flamme est donc dans le port du Pirée, si je ne me trompe pas, à l'heure où on se parle. Elle va embarquer à bord du Belém dans les prochaines minutes. Départ à 10h dans ce fameux trois mâts. Comment ça se passe là, à quelques minutes d'embarquer?
Écoutez, il y a de l'émotion. J'étais sur le bateau il y a un instant. Il est magnifique. On est très fiers de ce bateau qui, en plus, est là aussi chargé de symboles, chargé d'histoire, puisqu'il a été mis à l'eau en 1896, donc la même année que la création des Jeux de l'ère moderne. J'ai pu échanger avec les 15 jeunes qui seront à bord de ce bateau pendant les 12 jours de traversée à travers la Méditerranée. Ils sont émus, ils se sentent honorés. C'est des jeunes qui ont des parcours d'insertion incroyables, qui sont très méritants.
On les a entendus ce matin sur RMC.
Oui, je suis vraiment heureuse pour eux de cette expérience. Cette flamme va être protégée à bord. Le Belém va suivre un parcours formidable jusqu'à son arrivée sur le vieux port de Marseille.
Le 8 mai, 150 000 personnes attendues. Un vieux port qui sera 100% piétonnier. Ensuite, à partir du 9, début du parcours en France, 450 villes. Ça va passer par les Antilles, la Polynésie française, jusqu'au 26 juillet. Et on le sait depuis hier soir, le premier qui ressortira du Belém avec cette torche, c'est Florent Manaudou, nageur marseillais. Là aussi, tout un symbole. Hein. Tony Estanguet l'expliquait. Laure, sa sœur, était la première française à avoir tenu la flamme olympique sur le sol grec. Florent, son frère, sera le premier à la tenir sur le sol français.
Absolument, avec en toile de fond ces liens entre la Grèce et la France, les deux pays qui ont œuvré pour la réinvention des Jeux olympiques dans l'ère moderne. Et puis, cette symbole, cette famille Manaudou, avec le frère, la sœur, titrée l'une à Athènes, l'autre à Londres en 2012. On se souvient de ce 50 mètres absolument incroyable où il avait jailli avec cette médaille d'or qui restait, je pense, vraiment dans toutes les têtes et leur embrassade. C'est des magnifiques symboles. C'est la force du sport, c'est la force d'inspiration de l'olympisme. Moi, je suis très heureuse pour lui. Il est en effet ancré maintenant depuis presque 15 ans à Marseille, au Cercle Nageur de Marseille. Et puis, c'est quelqu'un qui a...
C'est un Marseillais, vous avez raison de le souligner, ouais. Amélie Oudéa Castéra. D'autres pensaient à un autre Marseillais. Écoutez, Michèle Rubirola, première adjointe à Marseille.
Il est vrai qu'on attend des Zizou, comme moi j'aime aussi beaucoup Zinedine Zidane. Alors, il y en a certains qui seront déçus, probablement. Mais bon, il n'y a pas que le foot dans la vie, il y a la natation. Et puis, la natation est accessible à tout le monde, puisqu'on a une superbe mer. Et puis, il y aura plein de piscines bientôt. Alors, on est très contents que ce soit aussi Florent. On est toujours déçu, on a toujours des regrets, mais c'est un Marseillais.
Bah, que va-t-il se passer pour Zizou, Madame la Ministre? Est-ce qu'il va porter cette flamme? Ce serait un beau symbole, d'ailleurs, qu'il soit le dernier porteur, peut-être, je ne sais pas, en duo avec Marie-Josée Pérec.
On a, vous savez, devant nous, 69 jours de relais. Ça va être le plus long de l'histoire. Il y a au global 10 000 relayeurs, dont des grands sportifs, des grandes sportives éminents. On vous réserve des surprises, ça va être formidable, vous verrez, vous ne serez pas déçus.
Est-ce que vous pouvez nous promettre ce matin que Zinedine Zidane fera partie de ses porteurs?
Non, je ne vous promets rien, je dis qu'il faut vraiment profiter de chacune des étapes. Ça va être un relais magnifique qui va mettre à l'honneur notre patrimoine naturel, historique, culturel, industriel, sportif, et qui va mettre à l'honneur des personnalités absolument exceptionnelles. Donc, régalons-nous, ça va être des grands moments. Ça y est, la flamme est française, elle sera bientôt sur notre sol. Là, on la met à bord du Belém, cette traversée des 12 jours. Voilà.
Et dans 3 mois...
à compter du 8 mai, une aventure absolument extraordinaire. Et l'allumage du chaudron dans 3 mois.
26
vous verrez,
juillet.
Ça va monter crescendo et ce sera exceptionnel.
Est-ce que tout est fin prêt, notamment en termes de sécurité? Questions et inquiétudes autour de la sécurité privée depuis plusieurs semaines. Où est-ce que vous allez trouver les 8000 agents qui manquent en moins de 3 mois, alors que depuis 7 ans, on a réussi à en trouver seulement 12 000?
Non, vous savez, ce plan d'action, il est préparé depuis plusieurs années, mais il est activé depuis 2 ans maintenant. On a déjà 20 000 entrées en formation, 12 000 recrutements. Et vous savez, une formation avec le nouveau titre de sécurité événementielle que nous avons créé, une formation, c'est 3 semaines. Donc moi, je lance vraiment un appel à tous ceux qui ont envie de venir contribuer à l'organisation des Jeux. Derrière, la faculté de pouvoir contribuer sur beaucoup d'autres événements sportifs. Il y aura un calendrier dans les mois, dans les années à venir extraordinaire. Donc c'est la faculté avec... et qui est en plus rémunéré, avec la possibilité derrière d'avoir beaucoup de débouchés, une récurrence. Donc moi, je suis tout à fait confiante dans le fait que nous atterrirons avec le bon volume d'agents de sécurité privée bien formés.
Et que
des
tout
agents
soit prêt
féminines
à ce
aussi,
nouveau-là.
Parce qu'il nous faut un bon quota de femmes pour les palpations qui concerneront les publics féminins. Mmh. Et au global, on est en avant avec une détermination totale et une bonne organisation pour être au rendez-vous des effectifs attendus.
Amélie Oudéa-Castéra, l'autre grand chantier avant l'allumage de la flamme lors de la cérémonie d'ouverture, c'est peut-être l'engouement populaire qui manque. Il y a certains qui parlent même de JO bashing. Vous dites ça suffit ce matin?
Ah, écoutez, je crois que ça fait partie de l'inquiétude que tous ces Jeux se passent aussi bien qu'ils le doivent. Moi, je veux vraiment rassurer sur tout ça. On est au travail jour, nuit, week-end.
Mais alors pourquoi il y a plus de Français qui râlent, qui ne se réjouissent?
Non, et je pense qu'on fait aussi attention, vous savez, à ce que les impacts sur le quotidien soient vraiment minimisés, que ça puisse être une grande fête du sport, mais qu'en même temps, en matière de transport, en matière de circulation dans Paris, en Île-de-France, au-delà, on puisse vraiment avoir la meilleure prise en compte des contraintes de chacun. On a communiqué dans les derniers jours ces différents périmètres de circulation avec le site anticiperlesjeux.gouv.fr. On donne toute l'info sur la météo des lignes, des gares, en fonction de la programmation sportive. Notre souhait, c'est que ça puisse être une immense fête sportive et qu'en même temps, il y ait une qualité de vie qui ne soit pas trop perturbée pour les usagers du quotidien.
Amélie Oudéa-Castéra, dernière question d'actualité, parce que vous étiez encore il y a quelques semaines ministre de l'Éducation nationale. Vous êtes diplômée de Sciences Po Paris, qui a été le théâtre hier d'un blocage des étudiants pro-Palestine. Est-ce que vous avez reconnu l'école dans laquelle vous avez étudié, avec les scènes qu'on a pu voir hier?
Écoutez, j'étais en Grèce ici avec une soirée qui s'est prolongée puisque la flamme a dormi à l'ambassade de France et nous étions autant de vigiles autour de cette petite lanterne. Mais je suis contente que les choses se soient apaisées. Je comprends qu'il y a un engagement pour du dialogue et je veux retenir...
La direction a eu raison d'accepter d'ouvrir ce dialogue.
Je veux retenir, vous savez, un message qui est très important, qui a été celui du président Barr ce matin, qui s'est engagé à ce qu'il y ait la représentation de 4 à 6 athlètes palestiniens, hommes et femmes, pour participer à nos Jeux. Nous portons avec cette flamme et cette aventure olympique un message de concorde, un message de paix, et nous avons envie que partout dans le monde, les foyers de tension, de difficultés puissent trouver des issues les plus heureuses possibles. Mmh. C'est aussi ça l'olympisme. Et je crois que nous avons tous en responsabilité d'apaiser la situation, d'éviter toute escalade, de faire en sorte qu'il puisse y avoir une coexistence pacifique entre les différents peuples.
Merci Amélie Oudéa-Castéra, ministre des Sports, des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, en direct d'Athènes ce matin sur RMC. Le Belém s'apprête à quitter le port du Pirée. On y reviendra bien sûr dans le journal de 9h. Restez bien avec nous.
RMC, la matinale week-end.
Mathieu Roux.
8h52, un peu de musique sur RMC avec ce retour surpuissant de Justice. On va voir ça dans le bonus RMC, c'est dans deux minutes.
Mais d'abord,
RMC.
Le coup de main conso.
RMC s'engage pour votre pouvoir d'achat, comment faire des économies au quotidien avec Anaïs Castagna.
Et Anaïs, ce matin, vous avez décidé d'alerter celles et ceux qui s'apprêtent à acheter de la crème solaire pour le retour des beaux jours qu'on espère.
Oui, c'est ça.
Attention, plusieurs crèmes sont mensongères.
Oui, c'est ce que montre une enquête de l'UFC Que Choisir. L'association a testé 13 crèmes solaires pour visage, indice 50 ou 50+. Et elle a découvert qu'un tiers de ces produits n'assurait pas le niveau de protection affiché. C'est Gaëlle Landry qui a travaillé sur cette étude pour l'UFC.
Ça veut simplement dire que les fabricants ont surestimé les indices de protection. On est sur des indices 50 et 50+, donc les protections les plus élevées. Et en réalité, ces crèmes correspondent à des indices 30. Donc elles ne protègent pas plus que des indices 30.
Non mais attendez, c'est incroyable ça.
En fait, c'est indice 30.
On achète
du 50. Vous pensez acheter du 50 et c'est de la 30. Ouais, exactement. L'association demande aux fabricants de mettre leurs produits en conformité avec les indices affichés et se réserve la possibilité d'une action en justice, évidemment.
Alors, une étude qui pose question, mais comment être sûr de ce qu'on achète et est-ce que le prix est un gage de qualité?
Bonne question. La réponse est non. D'ailleurs, parmi les produits pointés du doigt par l'UFC, on trouve des crèmes qui coûtent cher. Par exemple, la Lancaster Sun Sensitive Luminous Fluide lacté non gras 50.
Oula, déjà.
À 44 euros les 50 millilitres, 880 euros le litre. Wow. S'il vous plaît, ça, l'association vous recommande clairement de ne pas l'acheter.
C'est pas parce que c'est cher que c'est
exactement
bien. D'ailleurs, à l'inverse, il y a des crèmes bon marché qui sont bien notées.
Oui, c'est le cas régulièrement dans les études de l'UFC. Hein. Exemple, la Zenova Sun Milk Sensitive 30 et 50 plus de chez Action. Oui, elles sont bien classées. Et il n'est pas rare de voir aussi des produits Lidl bien notés.
Alors Anaïs, comment faire pour s'y retrouver et que faut-il regarder avant d'acheter une crème solaire?
Gaëlle Landry vous dit ce qu'il faut à tout prix éviter.
Les crèmes solaires qui renferment de l'octocrylène, qui est un filtre UV avec des soupçons d'effets perturbateurs endocriniens. De la même façon, on évitera l'ingrédient qui s'appelle l'homosalate. Et puis pour les plus jeunes, on évite le conservateur phénoxyéthanol puisqu'il est déconseillé chez les tout-petits.
Vous pouvez aussi passer par l'appli Quel produit hein, pour vous aider. Évidemment, une appli qui vous dit quel produit éviter, notamment pour les petits. Et puis, quelques rappels. Acheter de la crème solaire, c'est bien, mais encore faut-il l'étaler correctement. Ne laissez aucun espace non protégé. Couvrez-vous et cherchez de l'ombre dès que possible. La meilleure manière de se protéger, c'est de ne pas s'exposer. Oui. On ne le répétera jamais assez.
J'ai attrapé un coup de soleil. Un coup d'amour, un coup, je t'aime.
Vous savez me prendre par les sentiments.
Ouais, bien sûr, vous savez que ça allait vous toucher.
À chaque fois. Merci beaucoup, Anaïs Castagna. Votre coup de main conso est à retrouver sur rmc.fr, en podcast sur l'appli RMC. Merci pour Richard Cochian. J'adore.
On change de style.
Mais on va changer de style à 9h.
La matinale week-end.
Le bonus RMC.
Avec le grand retour de Justice, Peggy.
Le duo électro-français qui signe son retour après 8 ans d'absence. Enfin, avec un quatrième album disponible depuis hier, Hyper Drama. Alors, c'est un album au rythme disco et électro. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que Xavier Deronet et Gaspard Roger aiment prendre leur temps. Alors, au début d'année, les fans ont pu découvrir, je sais pas si vous avez entendu vous aussi, deux titres de cet album, dont un avec le chanteur du groupe australien Tame Impala, Kevin Parker. One Night, All Night ou encore ce titre générateur complètement différent. Et plus récemment sont sortis Incognito ou encore Saturnine avec le chanteur américain Miguel. Alors vous entendez, hein, chaque titre est très différent avec son propre univers. Mais on reste dans l'univers, on reste dans la French Touch avec le petit côté électro, un petit côté disco, c'est jamais les deux en même temps. On passe de l'un à l'autre, à l'instar un peu des Daft Punk en fait. Et le duo Justice a pensé cet album comme un opéra Gabber. Alors c'est un style de musique électronique rapide dans les années 90 à Rotterdam. C'est à la fois dansant, mélancolique, parfois violent, ténébreux, puissant. Aussi connu en France qu'aux États-Unis, Justice. Justice a ouvert le festival de Coachella, s'il vous plaît, aux États-Unis. C'était près de Los Angeles il y a quelques jours, puis le Mexique, et puis de nombreuses dates sont prévues. Hein, notez déjà le 1er juin, ce sera à Paris au festival Wheel of Green, une tournée estivale en Europe et aux États-Unis, et deux dates à retenir, 17 et 18 décembre 2024, deux concerts exceptionnels à l'Accor Arena de Paris.
Allez, quelques secondes de Justice pour se réveiller ce matin.
Ça, c'est le titre qui ouvre l'album que j'ai écouté hier soir, qui est absolument génial, je vous le recommande.
Un bon début de week-end à vous à l'écoute d'RMC. Dans quelques secondes, vos infos de 9h.
La matinale week-end.